Bonjour à tous, vous écoutez Psyché, la chaîne de podcast de Janssen Neurosciences qui donne la parole aux spécialistes qui pratiquent la psychiatrie au quotidien. Choisis pour leur expertise, inspirés par vos questions, ces praticiens vous apportent en 10-15 minutes un éclairage essentiel. Aujourd'hui, nous allons explorer la thématique de la dépression et plus précisément de la résistance au traitement et le fardeau que cela représente pour les patients. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Nabhan Abou, praticien hospitalier, psychiatre au centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes. Bonjour docteur Nabhan Abou, merci d'avoir accepté notre invitation. En guise d'introduction, quelle définition donneriez-vous de la dépression résistante? En quoi diffère-t-elle d'une dépression classique?
Bonjour à vous et surtout merci de m'avoir invité pour ce podcast. C'est un plaisir donc de répondre à vos questions. Effectivement, il y a souvent confusion entre dépression résistante et dépression chronique, voire même une dépression mélancolique. Avant tout, je voudrais insister sur la fréquence de la dépression d'une manière générale et dire que c'est quelque chose de très important et qui peut toucher moi, vous, n'importe qui. 9 millions de Français ont vécu ou vivront une dépression au cours de la vie. Donc, c'est quelque chose de très fréquent. Et j'insiste sur la notion de la dépression résistante qui ne doit pas se définir comme étant une dépression chronique. La chronicité, donc, n'est pas le critère, encore moins la sévérité. C'est pour vous dire qu'une dépression mélancolique, par exemple, n'est pas une dépression résistante avec sa douleur morale intense, les idées de culpabilité, les idées d'incurabilité, ce n'est pas une dépression résistante. Donc, la définition d'une dépression résistante, d'un patient dépressif résistant, c'est un patient qui a reçu deux lignes de traitement antidépresseur à un moment donné, à une dose importante, une dose efficace et surtout sur un temps suffisamment long pour guérir, mais il ne guérit pas. Donc, vous voyez, ce n'est pas la chronicité qui définit la résistance, c'est plutôt les lignes thérapeutiques. Premier traitement antidépresseur à bonne dose, un temps suffisant. Deuxième traitement antidépresseur à bonne dose, à temps suffisant. Et on a un échec. Et cet échec définira la résistance.
Comment la dépression résistante influence-t-elle la qualité de vie des patients?
Donc, vous avez raison d'insister sur cette notion de qualité de vie, car au final, c'est chacun d'entre nous recherche cette qualité de vie, ce bien-être, ce que les Américains appellent le « well-being ». La rémission symptomatique, c'est pas ce qu'on tend à avoir. C'est vraiment le retour ad integrum avant l'épisode dépressif. Retrouver le peps, la pêche, la rémission symptomatique, c'est-à-dire ne pas avoir de tristesse, ne pas avoir d'inhibition. Les signes cliniques ne définissent pas par leur absence une rémission et une qualité de vie. Ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on comprenne que c'est important au retour à une bonne qualité de vie pour éprouver à nouveau du plaisir, tant sur le plan familial, amical, et que aussi sur le plan professionnel, c'est-à-dire retourner voir ses amis avec plaisir, retourner au travail avec plaisir. Et là, on peut parler d'une bonne qualité de vie et d'un bien-être qui est récupéré.
Quelles sont les conséquences d'un épisode dépressif résistant versus un épisode de dépression non résistante ?
Donc, la dépression résistante est un fardeau, c'est quelque chose qui écrase. C'est une maladie qui impacte le patient, mais aussi ça impacte l'entourage immédiat. Sa femme, son mari, ses enfants, les activités au quotidien. Il ne peut plus faire un jogging s'il aime bien faire du jogging. Il ne peut plus aller à la bibliothèque s'il aime lire. Donc, les courses, faire les courses devient vraiment pénible. Les activités avec les enfants sont occupées. Et les liens amoureux dans un couple, ils sont entachés par cette résistance. La sexualité est perturbée. Donc, la tristesse est là, elle est écrasante, genre un nuage gris qui est au-dessus du patient, mais au-dessus aussi de son entourage. Il manque de peps, de couleurs, ça perdure, ça devient très lourd et ça occasionne un retrait très, très pénible. Et cette pénibilité et le prix de cette résistance. Sur le plan professionnel, c'est pareil. Il ne va pas au travail avec plaisir. Il y a des arrêts maladie, un absentéisme, mais aussi quand il va travailler, le patient déprimé, il n'est pas productif. Il a du mal à se concentrer, il fait des erreurs. Et donc, son efficience au travail, elle est effondrée. Et les collègues au travail aussi le vivent indirectement parce qu'au départ, les collègues tolèrent quelqu'un qui ne va pas bien, qui ne fonctionne pas très bien. Mais rapidement, le patient déprimé, il est stigmatisé. Et pour ne pas dire rapidement, il est mis dans un placard, voire même poussé vers l'arrêt maladie. Et donc, cet arrêt, il arrive, plus il est long, plus le patient a du mal, évidemment, à retrouver son travail et son milieu professionnel, plus il est difficile qu'il revienne au boulot. Donc, vous l'avez compris, la résistance, c'est lourd. Elle est responsable donc d'aggravation du poids, du fardeau de la maladie. Et 30% des patients déprimés seraient des patients résistants. C'est beaucoup. 30%. Et ces patients résistants sont surtout deux fois plus hospitalisés que les autres patients. Donc, c'est plus inquiétant. C'est plus inquiétant surtout par le risque suicidaire. Ce risque, il est plus présent quand il s'agit de patients déprimés résistants. Il est multiplié, écoutez bien, par sept fois plus qu'un patient déprimé non résistant. Donc, la résistance s'installe, la réponse au traitement, elle diminue au fur et à mesure des échecs thérapeutiques. Donc, on sait tous qu'un épisode dépressif majeur caractérisé selon l'OMS dure 6 mois. Mais en réalité, la réalité clinique, elle est complètement différente. Ça peut durer au moins 2 ans. Et des fois, selon, par exemple, d'autres études, plus de 3 ans. C'est pourquoi cet épisode résistant est important. C'est sa durée qui est accablante et écrasante.
Pouvez-vous nous parler de votre propre expérience sur le fardeau de la maladie pour le patient et l'entourage? Y a-t-il plus de risques pour les épisodes d'intensité sévère?
Je vais donner l'exemple de Maude, c'est une de mes patientes. Donc, elle est avocate d'affaires, elle est jeune maman, elle a 2 garçons de 7 et 5 ans. Elle est submergée par son travail, elle est sous pression, il faut qu'elle s'occupe des enfants. Son mari est très occupé aussi au niveau professionnel et elle a déprimé. Donc, elle a essayé de lutter, mais elle a flanché. Elle était triste, inhibée. Elle a consulté son médecin traitant au bout de 2 ou 3 mois. Donc, déjà, il y a de la perte de temps avant de voir son médecin généraliste. Son médecin traitant aussi généraliste met du temps à la convaincre pour mettre le premier traitement antidépresseur. Ce premier traitement antidépresseur a été débuté. Il y a eu une observance par moment, puis elle a fini par le prendre. Et quand elle l'a pris, il était sous-dosé. Donc, on a déjà perdu plusieurs mois, vous voyez. Et le médecin généraliste a augmenté le traitement antidépresseur à dose efficace. Il a attendu 6 semaines, 2 mois, ça ne marche pas. Au bout du 4e mois, il a convaincu Maude d'aller consulter un psychiatre libéral. Le temps pour avoir une consultation en psychiatrie libérale est plus de 2 ou 3 mois quand on a la chance de trouver un psychiatre en libéral parce qu'ils sont aussi submergés. Elle voit le psychiatre libéral, le temps de convaincre de prendre un nouveau traitement antidépresseur, de l'installer, d'augmenter les doses. On est déjà à 6 mois. On a toujours une résistance. Elle ne s'améliore pas. Et donc, il associe un deuxième traitement antidépresseur. Et le psychiatre libéral attend avec Maude et malheureusement, toujours pas de réponse. Donc, vous voyez, on a la définition de la dépression résistante. 2 traitements antidépresseurs à dose suffisante et sur un temps, mais vraiment assez long pour obtenir une amélioration et elle ne s'améliore pas. Et malheureusement, le pire arrive, elle fait une tentative de suicide grave et elle arrive en psychiatrie en milieu hospitalier. Donc, vous voyez, le temps est déjà passé. Il y a plus quasiment 2 ans de passé. Et pendant ces 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle a 2 enfants. Il y a le mari. Il n'y a plus de lien avec le mari. Les 2 enfants sont laissés à la famille. Donc, les beaux-parents qui viennent pour aider le couple et la famille aussi de Maude, sa maman et son papa qui aident également. Donc, vous voyez, la résistance impacte Maude, et elle a engagé le pronostic vital par le geste suicidaire, mais impacte aussi les beaux-parents, les parents, le mari, les enfants qui ont subi cette tristesse et ce manque d'énergie et cette résistance écrasante de Maud. Donc, l'urgence, ce que je veux passer comme message, c'est qu'il faut agir et rapidement. Il faut une urgence à traiter, traiter d'une façon efficace avec des médicaments qui sont vraiment ciblés autour de la résistance.
Quelles sont les conséquences sur le plan sociétal ?
Alors, les conséquences sur le plan social, bien sûr, mais surtout des conséquences sur le patient lui-même. Le patient résistant dégrade sa qualité de vie, mais pas que. La dépression résistance impacte la santé physique de nos patients. Donc, la corrélation avec des troubles gastriques, plus d'ulcères, plus de douleurs épigastriques, les conséquences cardiovasculaires sont vraiment décrites. Sur le plan sociétal, pour répondre à votre question, c'est le coût économique de la résistance. Ça coûte cher, une résistance. Alors, pourquoi ça coûte cher? C'est le coût direct pour les soins, mais aussi par le prix des traitements, par les prix des consultations, par les prix de l'hospitalisation. Je disais tout à l'heure qu'une dépression résistante est plus souvent hospitalisée. Donc aussi, il y a des coûts indirects de cette résistance par les arrêts maladie et l'absence de productivité des patients résistants. Ce sont les coûts indirects. Le plus grave quand même, au niveau du coût également, reste l'augmentation du nombre de tentatives de suicide et surtout le taux de mortalité par la résistance. Ce taux de mortalité et ses conséquences ont vraiment un impact sociétal qui est important.
La dépression résistante a-t-elle un impact sur le plan médico-économique ?
Alors, tout ça m'amène à faire un warning, à tirer une sonnette d'alarme. Il y a urgence à traiter et à prendre en charge la dépression résistance. Pourquoi ? Pour ne pas engager le pronostic vital de nos patients, vous l'avez compris. Donc, sur le plan médico-économique, c'est important. Évidemment, il y a un impact. Il y a un impact par l'augmentation de taux du suicide et son coût, par le taux de visite chez les médecins généralistes. On consulte plus régulièrement. À chaque visite, on paye, on engage aussi un prix. Par le taux du coût de passage aux urgences, quand on est résistant, on n'est pas bien, on fait des TS, on passe aux urgences plus souvent. Par l'augmentation du coût de l'hospitalisation. Donc, il y a un réel impact sur le plan médico-économique de cette résistance. Pour conclure, je voudrais vraiment insister sur les messages importants. D'abord, la résistance, c'est grave. La résistance n'est pas la chronicité. J'espère que vous l'avez compris. Ce n'est pas non plus la mélancolie. Je réinsiste sur la définition. C'est l'échec après deux lignes d'antidépresseurs à un temps donné, à un temps suffisant et sans guérison après ces deux lignes d'antidépresseurs. Donc, vous voyez bien, tous, on a des patients comme ça. Tous, on a des patients qui sont résistants. Et il est important quand même qu'on garde dans l'esprit que la résistance écrase le patient. Elle écrase le patient, mais aussi tout son entourage immédiat, sa famille, ses amis, ses collègues au travail. La résistance, elle est lourde. On a un coût direct de cette résistance par l'augmentation de l'hospitalisation, par l'augmentation des consultations psychiatriques, par l'augmentation du nombre de tentatives de suicide, mais aussi un coût sociétal indirect, surtout par l'engagement de ce pronostic vital de nos patients et par le risque suicidaire. Si je retiens quelque chose, c'est ça. 7 fois plus de tentatives de suicide chez les patients résistants. Il faut qu'on agisse vite, qu'on intervient. Il faut prévenir l'installation de cette résistance. Et si elle est là, vraiment la diagnostiquer, vraiment la prendre en charge d'une manière incisive, d'une manière vraiment interventionniste, d'une manière urgente, adéquate et rapide. Merci.
Merci Dr Naban Abou d'avoir participé à ce premier numéro et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez en savoir plus sur la dépression résistante versus la dépression sévère, retrouvez-nous pour l'épisode 2. À bientôt !